Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 105, Daf Kuf He. Bonne écoute et bon limoud.
Batar Rov Eber Shadinan Leh, nous l'assimilons à la majorité du membre qui est déjà sorti, Vehanafakle. Il se trouve que la minorité du membre qui est resté à l'intérieur complète la majorité de l'animal qui est sorti. Et par conséquent, ceux qui s'en occupent sont impurs, Odilma, ou bien Batar Behema Shadinale, nous l'assimilons à l'animal dont seule la moitié est sortie. Par conséquent, nous ne pouvons pas considérer que l'animal est sorti, ceux qui s'en occupent restent purs. L'agma conclut, Tekou, c'est une question qui reste sans réponse, Eliyahu répondra.
Rababar Ravhuna Matnela Begavre. Rababar Ravhuna rédigeait cette question concernant les hommes qui porte et qui s'occupe de brûler ses sacrifices, à savoir si nous suivons la majorité ou non. L'agma précise, Bemitaskin bo chamisha ben adam, dans une situation où cinq hommes s'occupent de porter et de faire sortir ses sacrifices de la cour du sanctuaire, venafkut lata, et trois de ces hommes sont déjà sortis, en même temps que le sacrifice, ou pashu lehutre, il en reste deux qui sont encore dans la cour du sanctuaire. Mai, qu'en est-il? Batar rov mit askin azlinan. Est-ce que nous suivons la majorité de ceux qui s'occupent de porter ces sacrifices pour les brûler, puisque la majorité de ces hommes sont sortis, même ceux qui se trouvent encore à l'intérieur deviennent impurs, voire le zebartoda. Ou bien, batar behema azlinan, comme l'explique le Tosfot, nous appliquons la majorité uniquement pour l'animal, donc le sacrifice. Donc, lorsque la majorité du sacrifice est sortie, nous considérons qu'il est sorti, ceux qui s'en occupent et qui sont dehors deviennent impurs, ainsi que les habits qu'ils portent. Mais en ce qui concerne les hommes qui s'en occupent, nous ne suivons pas la majorité. Par conséquent, seuls ceux qui sont à l'extérieur sont impurs, mais ceux qui restent à l'intérieur restent purs. L'Agmara conclut là-dessus. Tekou, c'est une question qui reste sans réponse. Eliyahu Hanavi répondra. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zvachim, Daf Kuf Dalet. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Kufhe. Nous commençons au milieu de la sixième ligne du haut de la page. Nous avons vu jusqu'à présent dans la Mishnah et dans la Gemara qui l'explique que les sacrifices destinés à être brûlés en dehors du sanctuaire, donc en dehors des trois camps, car leur sang a été aspergé à l'intérieur du sanctuaire, transmettent l'impureté à ceux qui s'occupent de les porter pour les faire brûler, ainsi qu'aux habits qu'ils portent. Cela à condition que ces sacrifices soient sortis de la cour du sanctuaire ou tout au moins leur majorité. Dès lors, ceux qui s'en occupent et qui se trouvent en dehors de la cour du sanctuaire deviennent impurs. En Baer Rabbi Lazar, Rabbi Lazar s'est posé la question suivante. Parim ou Seirim Hanisrafim, des taureaux et les boucs destinés à être brûlés en dehors des trois camps, car leur sang était aspergé à l'intérieur du sanctuaire, Sheyatsu Vechazru, qui sont sortis, donc qu'on a fait sortir de la cour du sanctuaire et qu'on a fait re-rentrer à nouveau, Mahou, qu'en est-il? Mi Amrinan, dira-t-on, Kivan Denafkelehu, puisque ces sacrifices sont sortis de la cour du sanctuaire, Itmelehu, ils sont devenus impurs, c'est-à-dire ils transmettent l'impureté à ceux qui s'en occupent, même si on a fait re-rentrer ces sacrifices dans la cour du sanctuaire, Odilma, ou bien Kivan Dehadur, puisqu'ils sont retournés dans la cour du sanctuaire, Hadur, nous considérons qu'ils sont retournés, c'est-à-dire finalement il s'avère que la première fois qu'ils sont sortis, ce n'est pas pour les faire brûler. Dans ces circonstances, ces sacrifices ne transmettent pas l'impureté. La Gemara comprend que la question se posait même concernant les personnes qui se sont occupées pour faire sortir ces sacrifices, puisque finalement ils sont revenus dans la cour du sanctuaire, ils n'ont pas d'impureté. Amar Rabbi Abba Bar Mamal, Tashma, viens, écoute une preuve de notre Mishnah. Notre Mishnah dit, Hayu sovlin otan bemotot, si les personnes étaient en train de les porter sur des brancards, donc ces sacrifices, harishonim yatsu chutz lechomat ha'azara, les premiers sont déjà sortis en dehors de la muraille de la cour du sanctuaire, ve'acharonim lo yatsu, tandis que les derniers ne sont pas encore sortis, ils se trouvent encore dans la cour du sanctuaire. Il s'agit d'une situation où les sacrifices eux-mêmes sont déjà en dehors de la cour du sanctuaire. הראשונים שיצאו חוץ לחומת האזהרה, les premiers qui sont sortis et se trouvent donc à l'extérieur de la muraille de la cour du sanctuaire, metamim begadim, sont devenus impurs ainsi que les habits qu'ils portent. Ve'acharonim, tandis que les derniers, en metamim begadim ad sheyetzu, ne transmettent pas l'impureté à leurs habits jusqu'à ce qu'ils sortent. Ve'is al kadatach, et s'il te vient à l'esprit qui vend des nafkelehu itmu, qu'une fois que ces sacrifices sont sortis, ils sont devenus impurs, c'est-à-dire transmettent l'impureté à ceux qui s'en occupent, même si on les a fait re-rentrer dans la cour du sanctuaire. Si c'est ainsi, hanardi kagava elitame, ceux qui se trouvent encore à l'intérieur devraient être aussi impurs, étant donné que les sacrifices sont sortis de la cour du sanctuaire. Pourquoi donc ceux qui se trouvent à l'intérieur restent purs? Amar Rabina a objecté là-dessus, Vetisbera. Est-ce que ce que Rabbi Abba Bar Mama l'a dit est logique, que c'est ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah? Habaina, pourtant, nous avons besoin que s'accomplisse ce qui est écrit dans le Passouk, dans Vaikra Yuddalet, concernant celui qui brûle les taureaux destinés à être brûlés en dehors des trois camps, et il sera impur, il lavera ses habits, il restera jusqu'à la nuit, Ve'achar Yavo El Amachane, et après il viendra au camp. Donc, lorsque le Passouk parle de cette personne impure, elle dit qu'il doit rester en dehors du camp. Dans ce cas où cette personne en question se trouve encore à l'intérieur du sanctuaire, Veleka, et cette condition ne s'accomplit pas. Et c'est donc pour cela que ceux qui restent à l'intérieur du sanctuaire restent purs, car ils ne sont pas encore sortis. Apparemment, l'Agmara, qui a compris à l'origine que la question de Rabbi Lazar concernant le cas où on a ramené les sacrifices destinés à être brûlés en dehors des trois camps, est-ce que l'impureté de ceux qui s'en occupaient s'annule rétroactivement? C'est parce qu'en fait, elle pensait que l'interprétation de Rabbi Abba Bar Mamal sur la Mishnah était possible. Maintenant que Ravina a réfuté cette possibilité, l'Agmara se ravise pour penser qu'il est évident que l'impureté ne s'annule pas rétroactivement. Et cela, car l'impureté de ceux qui s'occupent de ces sacrifices dépend du fait qu'ils sont sortis du camp, donc de la cour du sanctuaire. Une fois qu'ils sont sortis, même s'ils reviennent, ils restent impurs. Alors la Gemara demande, Ela Rabbi Elazar, Heriba Ela. Si c'est ainsi, quelle était la question de Rabbi Elazar? Dans quelle situation se présente cette question? La Gemara répond, que Gon de Nekitela Bebakulsi, c'est dans la situation où on a ramené les sacrifices dans la cour du sanctuaire. Donc, ceux qui se trouvent à l'intérieur pour faire sortir ces sacrifices resteront purs jusqu'à ce qu'ils sortent. Mais la question se pose dans le cas où des personnes se trouvent à l'extérieur de la cour du sanctuaire et tirent ces sacrifices avec des perches. Donc, si ces sacrifices transmettent l'impureté une fois qu'ils sont sortis une première fois, même si on les a ramenés, ceux qui se trouvent à l'extérieur, en tirant vers eux le sacrifice avec une perche, deviendront impurs. Mais si, tant que ces sacrifices se trouvent à l'intérieur de la cour du sanctuaire, ils ne transmettent pas d'impureté, même s'ils ont été ramenés à l'intérieur, ceux qui tirent vers eux ce sacrifice avec une perche resteront purs jusqu'à ce que ce sacrifice sorte de la cour du sanctuaire. Cette question, finalement, reste sans réponse. Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta. Nous lisons selon Rashi et la Shita Mukubetset, Hasoref para aduma ou parim anisrafim, celui qui brûle la vache rousse ou bien les taureaux destinés à être brûlés en dehors des trois camps. Il s'agit du taureau offert comme korban chatat par le Kohen Gadol à Yom Kippour, ou bien celui offert par le Kohen Gadol qui a fauté, ou celui offert par le public qui a fauté à la suite d'une décision erronée du tribunal suprême. Le Passouk dit clairement dans Bamidbar Yutet que celui qui brûle la vache rousse deviendra impur ainsi que les habits qu'il porte. Il en est de même pour le taureau offert par le Kohen Gadol à Yom Kippour, comme le Passouk le dit clairement dans Vaikra Tetzain. Et en ce qui concerne les autres sacrifices que nous avons mentionnés, la Gemara l'apprend plus haut d'Af Pek Gimel d'une expression superflue du Passouk. Vehamotzian, et celui qui les fait sortir, donc ces taureaux des trois camps, pour les brûler, Vehameshaleach et Asahir, et celui qui envoie le bouc que l'on précipite du haut d'une falaise à Yom Kippour. Le Passouk dans Vaikra Tetzain dit clairement concernant cette personne qu'elle devient impure ainsi que les habits qu'elle porte. metame begadim, il devient impur donc, ainsi que les habits qu'il porte, vehen atzman, tandis que même, donc, les sacrifices en question, les taureaux, la vache rousse et le bouc, en metamin begadim, ils ne transmettent pas d'impureté aux habits qui les touchent, ou d'ailleurs, n'importe qui les touche, qui n'est pas en train de s'occuper de les brûler. Aval metamin ochlim o mashkin, cependant, ils transmettent l'impureté à des aliments et à des liquides. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. La Gemara expliquera. Vachachamim omrim, para ou parim, la vache rousse et les taureaux destinés à être brûlés en dehors des trois camps, metamin ochlim o mashkin, transmettent l'impureté à des aliments et à des liquides. Tandis que Saïra Mishaleach, le bouc destiné à être précipité d'une falaise, et non metamé, ne transmet pas d'impureté à des aliments ni à des liquides, chez Uchai, car il est vivant. Vehachai et non metamé ochlim o mashkin, et un animal vivant ne devient jamais impur, donc ne transmet pas d'impureté ni à des aliments ni à des liquides. La Gemara demande, Bishlama li Rabbi Meir, on comprend bien l'opinion de Rabbi Meir, Kedetana de Berabbi Ishmael. C'est comme la Braïta qui a été enseignée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael. Detana de Berabbi Ishmael. Lorsque le Pasuk dit dans Vaikra Yudalef, concernant l'impureté des aliments, le Pasuk dit, et si le cadavre d'un animal ou d'un reptile mort tombe, alcool, zera, zeroua, etc., sur toute graine de semence qui est destinée à être semée, ces graines resteront pures. Mais si ces graines ont été mouillées, elles deviennent aptes à devenir impures, donc ils reçoivent l'impureté du cadavre animal ou du reptile mort. Alors là-dessus, il est enseigné dans la Braïta de Rabbi Ishmael, Mazraïm, de même que les graines ont cela de particulier chez Ensofan, Litamet ou Mahamura, qui ne finiront pas par transmettre une impureté grave, ou Tzrichin Ercher, ils ont besoin de devenir aptes à devenir impurs en étant mouillés par un liquide. Afkol, ainsi tout aliment, chez En Sofan Litamet ou Mahamura, qui ne finira pas par transmettre une impureté grave, Tzrichin Ercher, ils auront besoin de devenir aptes à devenir impurs en étant mouillé par un liquide. Yatsa nivlat oftahor, on exclura des aliments le cadavre d'un oiseau pur, donc permis à la consommation, chez Sofa litamet ou mahamura, qui finira par transmettre une impureté grave. En effet, lorsqu'une personne mange le cadavre d'un oiseau pur, en l'avalant, il devient impur ainsi que les habits qu'il porte. Alors, puisque ce cadavre d'un oiseau pur finira par transmettre une impureté grave, ve'en tzricha ercher, elle n'aura pas besoin de devenir apte à devenir impur, donc d'être mouillé par un liquide, pour transmettre l'impureté des aliments. D'ailleurs, cet oiseau n'aura pas besoin non plus de toucher une impureté pour transmettre l'impureté à des aliments. Et cela, car ce cadavre d'un oiseau finira par transmettre une impureté grave. En suivant ce raisonnement, les taureaux destinés à être brûlés en dehors des trois camps, ou la vache rousse, ou le bouc, qui sera précipité du haut d'une falaise, qui transmettront une impureté grave à celui qui s'en occupe, ils transmettent l'impureté à des aliments sans avoir été mouillés ni sans avoir été touchés par une impureté. Et là, les Rabbanan, mais selon l'opinion des Chachamim, i itlehu de Tana de Berabbi Ishmael, s'ils sont d'accord avec la Braïta enseignée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, afilu Seira Mishtaleach, même le bouc destiné à être précipité d'une falaise aurait dû transmettre l'impureté à des aliments. Nous lisons selon la Shita Mukubetset, vei letlehu de Tana de Berabbi Ishmael, et s'ils ne sont pas d'accord avec la Braïta enseignée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, afilu para ou parim menalan, même la vache rousse et les taureaux destinés à être brûlés en dehors des trois camps, d'où sait-on qu'ils transmettent l'impureté à des aliments? La Gemara répond, Kiata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu d'Eret Israël, Amar il a dit, Amre Bemarava, les Chachamim disent en Eret Israël, que ce que les Chachamim pensent, c'est que même si selon Rabbi Ishmael, un aliment qui finira par transmettre une impureté grave n'a pas besoin de toucher d'impureté pour transmettre l'impureté aux aliments, cependant, Tzrichin Hersher Touma Mimakom Acher, il faut qu'il s'agisse d'un aliment qui ait une aptitude de devenir impur dans une autre situation. Donc, un animal vivant qui n'a jamais d'impureté, même s'il finira par transmettre une impureté grave, il ne transmettra pas l'impureté aux aliments. Et c'est donc cela le sujet de discussion entre Rabbi Meir et les Chachamim. Nous noterons cependant que, comme nous le verrons par la suite, tout le monde, donc soit Rabbi Meir, soit les Chachamim, sont d'accord que l'aliment qui finira par transmettre une impureté grave transmet l'impureté aux aliments seulement lorsqu'il se trouve dans une situation où cette impureté peut exister. Mais avant cela, il ne transmettra pas l'impureté aux aliments. Ba'er Rabbi Elazar, Rabbi Elazar s'est posé la question suivante. Parim ou Seirim Anisrafim, des taureaux et des boucs destinés à être brûlés en dehors des trois camps. Mahu Jetamu Ochlin ou Mashkin Bifnim Kibachutz, transmettent-ils l'impureté à des aliments ou à des liquides à l'intérieur, donc lorsqu'ils se trouvent dans la cour du sanctuaire, comme s'ils se trouvaient à l'extérieur du sanctuaire? Est-ce que Mechoussar Yetziak et Mechoussar Maasedami, est-ce que le fait qu'il lui manque de sortir de la cour du sanctuaire est considéré comme s'il manque une action pour que cette impureté existe? Par conséquent, ils ne transmettront pas l'impureté aux aliments, au lot, ou bien non? Ou bien nous considérons que le fait qu'il manque encore la sortie de la cour du sanctuaire n'est pas considéré comme s'il manquait une action? Donc nous pouvons considérer que ces sacrifices sont dans une situation où ils peuvent transmettre l'impureté grave, ils transmettront donc l'impureté au liquide et aux aliments. Batar de Baya, après qu'il s'est posé cette question, Hadar Pashta, il l'a tranché lui-même en disant « Mechoussar Yetzia ke Mechoussar Maasedami, s'il manque le fait de sortir de la cour du sanctuaire est considéré comme s'il manquait une action pour que cette impureté existe. Par conséquent, ces sacrifices destinés à être brûlés en dehors de trois camps ne transmettent pas l'impureté aux aliments et aux liquides s'ils se trouvent encore dans la cour du sanctuaire, puisque dans cette situation, l'impureté grave ne peut pas encore exister. Ba'amine Rabbi Abba Bar Shmuel, mais Rabbi Chia Bar Abba. Rabbi Abba, fils de Shmuel, a posé la question à Rabbi Chia, fils de Abba. Nevelat of Tahor le Rabbi Meir, en ce qui concerne le cadavre d'un oiseau pur permis à la consommation, selon l'opinion de Rabbi Meir, Mahu Sheyetame Bekazaït, transmet-il l'impureté aux aliments, même s'il s'agit uniquement d'un morceau de la taille d'une olive? C'est-à-dire, l'impureté de l'aliment n'existe que s'il s'agit d'un aliment de la taille d'un œuf. Par conséquent, selon les Chachamim, comme nous l'avons vu précédemment, ce morceau d'une taille inférieure à celui d'un œuf, qui ailleurs ne peut pas transmettre d'impureté, par conséquent, même s'il finira par transmettre une impureté grave, selon les Chachamim, comme nous l'avons dit, il ne transmettra pas l'impureté aux aliments. Cependant, selon Rabbi Meir, qui n'exige pas cette condition, comme nous l'avons vu précédemment, la question se pose, est-ce que s'il s'agit d'un morceau inférieur à celui de la taille d'un œuf, est-ce qu'il transmet l'impureté aux aliments? Alors la Gemara précise, « De Marta l'ara, si ce morceau est posé par terre, l'otiva elach, tu n'as pas de question à te poser, car étant donné qu'il est posé par terre, il se peut qu'il ne sera jamais mangé par un homme, donc finalement il se peut qu'il n'aura jamais cette impureté grave. Puisque c'est ainsi, il ne transmettra pas l'impureté aux aliments tant qu'il n'est pas prêt à être mangé. Denakit bepoumé, s'il se trouve déjà dans la bouche de cet homme, l'otiva elach, tu n'as pas non plus de questions à te poser. Car étant donné qu'il se trouve dans la bouche, donc il finira par transmettre l'impureté grave, il transmettra l'impureté aux aliments, même s'il s'agit d'un morceau de la taille d'une olive. Kite be'elach, dans quelle situation tu peux te poser la question? Denakit le be'ade, s'il tient ce morceau de cadavre d'un oiseau dans sa main. Mechoussar kriva, s'il lui manque le fait d'être approché de la bouche, kemchoussar ma'asedami, est considéré comme s'il manque une action, et par conséquent, il ne transmettra pas l'impureté aux aliments, au lot ou bien non. Nous disons que le fait qu'il lui manque d'être approché de la bouche n'est pas considéré comme s'il manque une action pour qu'il ait cette impureté. Par conséquent, il transmettra l'impureté aux aliments.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Koufé Amoud Bet. Nous lisons selon la Shita Mokoubetset, Amarle, Rabbi Chia Bar Abba lui a répondu, Mechoussar kriva lav ke mechoussar maasedami, le fait qu'il manque d'être approché de la bouche n'est pas considéré comme s'il manquait une action pour que cette impureté existe. Par conséquent, ce morceau de la taille d'une olive qu'il tient dans ses mains transmettra l'impureté aux aliments selon l'opinion de Rabbi Meir. Et Tivé, Rabbi Abba bar Shmuel a objecté à Rabbi Chia bar Abba. Voici qu'il y a une Mishnah dans Maseret Taharot, Perek Aleph, Mishnah Aleph, qui dit comme suit: Shlosha asar dvarim ne'emru benivlat of Tahor. Il y a trois choses qui ont été dites en ce qui concerne le cadavre d'un oiseau pur permis à la consommation. Veze echad mehem, voici une de ces choses. Tzricha marshava ve'en tzricha ercher. Pour que le cadavre de cet oiseau transmet l'impureté aux aliments, il est nécessaire qu'une personne ait eu l'intention de le consommer, parce que sinon, il est possible qu'il ne sera jamais mangé, mais il n'est pas nécessaire de le rendre apte à transmettre l'impureté en étant mouillé par un liquide et en étant en contact avec une impureté. Nous pouvons déduire du fait qu'il est nécessaire d'avoir une intention de consommer ce cadavre d'un oiseau pour qu'il transmette l'impureté, qu'il ne s'agit pas d'un cas où ce cadavre est posé par terre car l'intention ne suffirait pas, mais comme nous l'avons dit précédemment, il faudrait le rendre impur pour qu'il transmette l'impureté. D'autre part, il ne s'agit pas d'une situation où il se trouve dans la bouche, car sinon, il n'est pas nécessaire d'avoir une intention, car le fait d'être dans la bouche, finalement, est même mieux qu'une intention. Forcément, il s'agit d'une situation où il est dans la main d'une personne, et il faut donc que cette personne décide d'en manger. Dès lors, il n'aura pas besoin d'être en contact avec une impureté pour transmettre l'impureté des aliments. Puis la Mishnah poursuit, « Umetame tumatochlin bekabetsa » et il transmet l'impureté des aliments s'il s'agit d'un morceau de la taille d'un œuf. Nous voyons donc dans la Mishnah qu'un morceau inférieur de la taille d'un œuf ne transmet pas l'impureté s'il se trouve dans les mains d'une personne. Maïlav, n'est-ce pas que Rabbi Meirhi, cette Mishnah, suit l'opinion de Rabbi Meir? Donc finalement, nous pouvons réfuter la réponse de Rabbi Chia bar Abba. L'Agma répond, l'eau, non. Rabbananhi, cette Mishnah suit l'opinion des Chachamim. C'est pour cela qu'il faut la taille d'un œuf pour transmettre l'impureté aux aliments. Mais toujours pourrais-je te dire que selon l'opinion de Rabbi Meir, même un morceau de la taille d'une olive transmettra l'impureté aux aliments. Selon Rashi et la Shita Mukubetset, nous sautons les trois lignes et demie suivantes. La Gemara demande, Vehami de Katane Sefa, mais pourtant, puisqu'il est enseigné à la fin, donc dans la suite de la Mishnah, concernant toujours le cadavre de l'oiseau pur, Shritata, ou si elle est égorgée correctement lorsqu'il s'agit d'un oiseau profane, ou Milikata, ou bien si son cou a été sectionné par l'arrière lorsqu'il s'agit d'un oiseau désigné comme sacrifice, Metaheret Trefata Mitumata, a le pouvoir de purifier cet oiseau, même s'il s'agit d'un oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend Trefa, étant donné qu'ils ont été sacrifiés correctement. Man Shematle Haisvara, qui as-tu entendu dire cette opinion? Rabbi Meir, nous savons que c'est Rabbi Meir, comme nous l'avons vu plus haut, Daf Samertet. En effet, selon les autres avis qui sont en désaccord avec Rabbi Meir, seul l'égorgement de l'oiseau aura le pouvoir de le purifier s'il est atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa. D'ailleurs, il existe même un avis qui pense qu'en ce qui concerne l'oiseau, même s'il est sacrifié correctement, il sera impur s'il est atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa. Nous lisons toujours selon la Shita Mukubetset, ou Midesefa Rabbi Meir, puisque la fin de la Mishnah est rédigé selon l'opinion de Rabbi Meir, Recha Nami Rabbi Meir. Le début de la Mishnah est aussi rédigé selon l'opinion de Rabbi Meir. Nous pouvons donc prouver que selon l'opinion de Rabbi Meir, un morceau d'une taille inférieure à celui d'un œuf ne transmet pas l'impureté aux aliments. La Gemara poursuit, toujours selon la Shita Mukubetset, Mideria, est-ce une preuve? Ha Kedeita Veha Kedeita. Ce passage sera interprété comme il se doit, tandis que l'autre sera interprété comme il se doit. Donc, la fin de la Mishnah est rédigé uniquement selon l'opinion de Rabbi Meir, tandis que le début de la Mishnah, il se peut qu'il soit rédigé uniquement selon l'opinion des Chachamim. Amar le Rav Hamnuna le Rabbi Zera. Rav Hamnuna a dit à Rabbi Zera la chose suivante. Lotitiv akar ech, ne t'assois pas sur tes pieds, car à l'époque, il s'asseyait par terre. Ad de amartli hamilta, jusqu'à ce que tu me dises cette chose, autrement dit, jusqu'à ce que tu me répondes à la question suivante. Nivlat of tahor. Le cadavre d'un oiseau pur permet à la consommation. Les Rabbi Meir et ce, selon l'opinion de Rabbi Meir, qui, comme nous l'avons vu précédemment, selon lui, ce cadavre transmet l'impureté des aliments, même s'il ne s'agit que d'un morceau de la taille d'une olive, et ce, car il finira par transmettre une impureté grave, alors qu'en général, les aliments ne transmettent l'impureté que s'ils ont la taille d'un œuf. Donc finalement, il s'agit d'un aliment qui n'a pas les conditions habituelles pour transmettre l'impureté. Monim la rishon vesheni, est-ce que pour cette impureté transmise par le cadavre de l'oiseau, comptera-t-on les degrés d'impureté, donc le premier et le deuxième, en considérant que ce cadavre d'oiseau est impur au premier degré, ce qui le rendra impur le sera au deuxième degré, et cette impureté pourra se transmettre à un aliment de Trouma ou à de la viande d'un sacrifice, au enmonim rishon vesheni, ou bien est-ce qu'on ne compte pas l'impureté au premier degré et au deuxième degré pour ce type d'impureté, donc seul l'aliment qui touche le cadavre de cet oiseau sera impur, mais ce qui touche le deuxième aliment ne sera pas impur. C'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'un type d'impureté particulier, il se peut que cette impureté ne se transmet pas à d'autres aliments. Amarle, Rabbi Zera lui a répondu, « Kol hecha de metame adam bemaga, tout type d'impureté qui peut théoriquement se transmettre à l'homme s'il le touche. » Donc il s'agit d'un type d'impureté habituelle. « Monimbo rishon vesheni, on comptera l'impureté au premier et au second degré, etc. » Car le pasouk dans Vaikra Yudalef, duquel nous apprenons le principe qu'il existe une impureté au premier et au second degré, parle d'un type d'impureté qui peut se transmettre aussi à l'homme. Kol hecha de en metame adam bemaga, mais lorsqu'il s'agit d'un type d'impureté qui ne peut pas se transmettre à l'homme s'il le touche, en moninbo rishon vesheni, on ne comptera pas l'impureté au premier et au second degré, donc cette impureté ne se transmettra qu'à l'aliment qui touche directement le cadavre de l'oiseau ou l'impureté en question, mais ne se propage pas plus que cela. Ba'a mine Rabbi Zera, mais Rabbi Ami bar Chia. Rabbi Zera a posé la question suivante à Rabbi Ami, fils de Chia, Vamrela, et il y en a qui disent, mais Rabbi Avin bar Kahana, que Rabbi Zera a posé cette question à Rabbi Avin, fils de Kahana. Nous lisons selon la note marginale, Ha de Tania, en ce qui concerne ce qui est enseigné dans une braïta, qui dit la chose suivante, Chibure ochlin alede mashkin, des aliments liés par un liquide. Il s'agit par exemple de deux morceaux d'un cadavre d'animal qui ont chacun une taille inférieure à celle d'une olive, qui est la taille requise pour transmettre l'impureté du cadavre animal, et ces deux morceaux, se trouvant côte à côte, sont liés par un liquide. Chibur le tumakala, ce lien est suffisant pour transmettre une impureté légère à des aliments ou à des liquides, ve'en chibur le tuma chamura, mais ce lien n'est pas suffisant pour transmettre une impureté grave à l'homme ou à des ustensiles. Comme Rashi le précise, nous ne savons pas quelle est la raison de cette différence. En tout cas, sur ce que cette braïta dit, la question se pose, monin bo rishon vesheni, est-ce que l'on compte pour ce type d'impureté transmise par des morceaux de cadavres liés par un liquide l'impureté au premier et au second degré, et donc l'aliment qui touche ces morceaux auront l'impureté au premier degré, et l'aliment qui les touche aura l'impureté au deuxième degré, etc. Au en moninbo rishon vesheni, ou bien est-ce qu'on ne compte pas l'impureté au premier et au second degré, donc seul l'aliment qui touche ces morceaux liés par un liquide sera impur, mais cette impureté ne se propagera pas. La question se pose parce qu'il s'agit d'un type d'impureté particulier. Amarle, alors celui qui a entendu cette question lui a donné la réponse suivante. Kol hecha de metame adam, partout où il s'agit d'un type d'impureté qui peut se transmettre à l'homme, monin bo rishon vesheni, on compte l'impureté au premier et au second degré, comme nous l'avons expliqué précédemment. En metame adam, mais s'il s'agit d'un type d'impureté qui ne peut pas se transmettre à l'homme, car il s'agit d'un type d'impureté particulier, en monin bo rishon vesheni, on ne compte pas l'impureté au premier et au second degré, donc seul l'aliment qui touche l'impureté en question sera impur, mais cette impureté ne se propagera pas. Comme l'explique le Chok Natan, en fait, premièrement, Rabbi Zera s'était posé cette question, et lorsqu'il a accepté la réponse, il l'a transmise à Rav Hamnuna, qui lui a posé le même type de question plus tard. Cependant, puisque la question précédente concernant le cadavre de l'oiseau est une suite au sujet que nous avons traité précédemment, La Gemara a inversé l'ordre des questions en présentant d'abord celle que Rav Amnouna a posée à Rabbi Zera, puis ensuite celle que Rabbi Zera a posée à Rabbi Ami ou à Rabbi Avin. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Yatsu elu veilu » si cela et cela sont sortis de la cour du sanctuaire. Donc, ceux qui portaient le sacrifice sont sortis et le sacrifice aussi. Ils sont impurs ainsi que les habits qu'ils portent. La Gemara demande maintenant à Némilé, d'où sait-on ces choses-ci, que dès que le sacrifice est sorti d'un camp, donc le camp qui s'appelle le sanctuaire, ceux qui s'en occupent sont déjà impurs. La Gemara répond de Tanoura Banan, nous l'apprenons car il est enseigné dans une braïta qui interprète les psukim dans Vaikra Tetzaïn concernant les sacrifices spéciaux de Yom Kippour qui doivent être brûlés en dehors des trois camps. La braïta pose la question qui suit, les halan là-bas en ce qui concerne le taureau offert par l'assemblée ou le Kohen Gadol qui ont fauté. Nous lisons selon la Shita Mukubetzet, Atan noten lahem shalosh machanot, tu leur as accordé trois camps, autrement dit tu as exigé que ces sacrifices soient brûlés en dehors des trois camps, donc en dehors de la ville de Yerushalayim, lorsque le Béné Israël se trouve en Eretz Israël. Et ce, comme nous le verrons par la suite. Kan, ici, en ce qui concerne les sacrifices de Yom Kippour, les Machane Achat, tu t'es contenté de faire sortir ces sacrifices d'un seul camp. Et ceci est impossible, car nous apprenons l'un de l'autre, comme l'Agmara le dit plus haut, Daf Pegimel, il est évident que les sacrifices spéciaux de Yom Kippour sont brûlés en dehors des trois camps, donc en dehors de la ville de Yerushalayim. Alors toujours selon la Shetam Kubetzet et Rashi, la Braïta poursuit, Imken lama ne'emar el mechutz la machane, si c'est ainsi, pourquoi est-ce que le Passouk dit en dehors du camp? Donc pourquoi se contente-t-il de préciser qu'il faut sortir le sacrifice que d'un seul camp? La Braïta répond, l'Omar lecha, kivan shiatza chutz le machane achat, une fois que le sacrifice est sorti d'un seul camp, donc de la cour du sanctuaire, metame begadim, celui-ci rend impur ceux qui s'en occupent, ainsi que les habits qu'ils portent. La Gemara demande Vehi Gufa Menalan, et cette chose-là donc, que ces sacrifices doivent être brûlés en dehors des trois camps, donc en dehors du Yerushalayim, Menalan, d'où le sait-on? La Gemara répond de Tanoura Banan, car il est enseigné dans une braïta qui interprète le Passouk dans Vaikra Dalet concernant le sacrifice offert par l'assemblée et le Kohen Gadol qui ont fauté. Le Passouk dit Vehotzi et kol hapar el michutz la machane, et il sortira tout le taureau en dehors du camp. La Braïta affirme Chutz le shalosh machanot, le Passouk veut dire qu'il faudra sortir ce sacrifice en dehors des trois camps. La Braïta se demande Ata omer chutz le shalosh machanot, dis-tu vraiment qu'il faut sortir ce sacrifice en dehors des trois camps? O eno ela michutz le machane achat, qu'on peut se contenter de le sortir que d'un seul camp, donc en dehors de la cour du sanctuaire. La Braïta répond que Shehu Omer Bepar Haeda, lorsque le Passouk dit par la suite concernant le taureau offert par l'assemblée qui a fauté à la suite d'un jugement erroné du tribunal suprême, Michutz Lamachane, qu'il faudra le brûler en dehors du camp, chez Ensarich Lomar, alors que le Passouk n'avait pas besoin de le dire, chez Arekvar Nehemar, car le Passouk dit toujours dans le même chapitre, car Sher Saraf et Apar Arishon, comme il a brûlé le premier taureau, il s'agit du taureau qui a été offert par le Kohen Gadol qui a fauté. Donc nous apprenons qu'il sera brûlé au même endroit. Pourquoi est-ce que le Passouk précise à nouveau qu'il faudra le sortir en dehors du camp? Liten lo machane shnia. Cette précision, c'est pour lui donner un deuxième camp. Autrement dit, qu'il faudra sortir ce sacrifice en dehors de deux camps, donc celui du sanctuaire et celui des Lévi'im, pour le brûler. Kesheu omer michutz la machane bedeshen. Lorsque le Passouk dit concernant la cendre de l'autel qu'il faut vider, le Passouk dit qu'il faudra le vider en dehors du camp. Chez En Tsarich Lomar, alors que le Passouk n'avait pas besoin de le dire, chez Arekvar Nehemar, car le Passouk dit concernant ses sacrifices, Al Shefer Hadeshen Isaref, il faudra brûler ce sacrifice là où on déverse la cendre provenant de l'autel. Donc nous savons que cette cendre est déversée au moins en dehors de deux camps. La Braïta répond, Liten lo machane shlishit, c'est pour accorder un troisième camp, et donc pour dire qu'il faudra déverser cette cendre et brûler ses sacrifices en dehors des trois camps, donc en dehors de Yerushalayim. Donc, puisque nous apprenons de ce Passouk ou de ces Psukim que ces sacrifices doivent être brûlés en dehors des trois camps, la précision concernant les sacrifices de Yom Kippour qu'il faut le sortir d'un seul camp, c'est pour nous enseigner que dès qu'on a fait sortir ce sacrifice d'un seul camp, donc de la cour du sanctuaire, il transmet l'impureté à ceux qui s'en occupent et aux habits qu'ils portent. La Gemara demande vers Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon qui dit que cette impureté n'est transmise que lorsque le feu a pris sur la majorité de ce sacrifice. Donc il est évident que cette impureté ne se transmet que lorsque le sacrifice se trouve en dehors des trois camps et il a commencé à brûler. Hay michutz lamachane ma'avidle. Que fait-il de cette précision du pasouk dans Vaikra Tetzayin concernant les sacrifices de Yom Kippour qu'il faut le sortir en dehors du camp? L'Agma répond, « Miba'ele, il a besoin l'Echdetania pour ce qui est enseigné dans une braïta. » La braïta dit comme suit, « Ne'emar kan, il est écrit ici au sujet des sacrifices de Yom Kippour, chutz lamachane, qu'il faut le sortir en dehors du camp. V'ne'emar le'alan, il est écrit ailleurs dans Bamidbar Yutet concernant la vache rousse qui doit être sacrifiée et brûlée en dehors du camp. » Le pasouk s'exprime en disant, « Chutz lamachane, en dehors du camp. » Nous lisons, selon la note marginale, Makan, de même qu'ici, concernant les sacrifices de Yom Kippour, lorsque le pasouk dit en dehors du camp, Chutz le shalosh machanot, cela veut dire en dehors des trois camps. Afkan, ainsi ici, concernant la vache rousse, Chutz le shalosh machanot, il faudra la sacrifier et la brûler en dehors des trois camps. Ou ma le halan, et de même que là-bas, concernant la vache rousse, les mizracha chez l'Yerushalayim, et les sacrifier et brûler à l'est de l'Yerushalayim.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.